Vous écoutez RCF Loiret, c'est Agora qui commence, présenté par Sophie Deschamps. Bonjour Sophie.
Bonjour à tous, bonjour Christian Bidot, puisque cette émission est réalisée en partenariat avec Maxentre.
Bonjour Sophie.
Un agora spécial grand froid Loiret, puisque vous l'avez remarqué, il fait froid depuis le début de l'année dans le Loiret et il ne fait pas bon dormir dehors. La neige la semaine dernière a encore aggravé la situation et les températures négatives ont déclenché le plan grand froid, un plan piloté par la préfecture du Loiret en lien avec les association caritative qui gère l'hébergement d'urgence, avec notamment l'ouverture de places supplémentaires. Un dispositif qui a bien sûr le mérite d'exister, mais qui est sûrement perfectible. Et pour en parler, trois invités sont avec nous dans ce studio. Nathalie Azoumé-Costenoble, secrétaire générale par intérim de la préfecture du Loiret. Bonjour. Jean-Noël Guillaume, vous êtes le directeur général d'Imanis et le directeur du Loiret, une association qui gère plusieurs centres d'hébergement d'urgence et aussi le fameux 115, le numéro d'urgence pour trouver un toit. Et enfin, Yves Baudard, vous êtes l'un des fondateurs du collectif citoyen orléanais Les Maraudeurs du Jeudi et vous avez des propositions plein votre musette, dont certaines ont déjà été présentées lundi midi sur notre antenne.
Tout à fait, merci.
Bonjour à tous les trois, bienvenue dans cet agora.
Merci.
Christian Bidot, c'est à vous.
Oui, en juillet 2017, on s'en souvient puisque c'était à Orléans, Emmanuel Macron s'était engagé à ce que plus personne ne donne de normes dans la rue d'ici la fin de l'année. On voit le résultat. L'année dernière à Paris, des bénévoles ont entrepris un recensement des RCF, pardon, un recensement des SDF et non pas des RCF. Nous sommes sur RCF. Donc ma question est simple, est-ce qu'on peut évaluer le nombre de SDF qui sont à Orléans ou sur la métropole plus généralement, madame?
Alors, on peut évaluer ce nombre de personnes en lien avec les personnes qui appellent le 115 au quotidien et également le travail qui est fait par les maraudes tous les jours sur le territoire de la métropole. Ce nombre est variable. Il oscille entre une dizaine, quinzaine de personnes et peut parfois aller jusqu'à 35-40 personnes. Je pense qu'à ce stade, il est important de préciser que, notamment quand on a traversé cette période de grand froid, toutes les personnes qui ont appelé le 115 se sont vues proposer une solution d'hébergement. Et donc, pendant ces 10 jours qu'a duré ce plan dans le Loiret, les personnes qui étaient à la rue, d'après les éléments qui nous ont été remontés, d'après aussi ce que nous avons pu constater sur le terrain, ce sont des personnes qui ne voulaient pas de solution d'hébergement.
Déjà, sur ce chiffre, vous êtes d'accord tous les deux. Monsieur Baudard, une quarantaine de personnes, ça vous paraît
Qui sont
dans la rue, qui ne sont sans domicile.
Apparemment, sans domicile. Les chiffres qui avaient été communiqués par Imanis, quand même, c'est que au 1er février, il y avait 56 personnes qui étaient sans solution. Des personnes qui appellent, c'est quand même important, parce qu'il y a des personnes, en contact avec des personnes qui ont des chiens, qui ont renoncé à appeler, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas pris en charge avec leur animal. Et puis il y a des personnes pour des choix personnels ou qui campent au bord de la Loire, qui eux n'appellent pas. Donc, voilà, ça c'est clair. Donc des personnes qui font des demandes. Au 1er février, 56 personnes sans solution. 5 jours plus tard, là, sur le pic du grand froid, tout le monde est pris en charge. Donc moi j'avais dit, effectivement, il y a un plan grand froid, faisons un plan grand humain. Ce qui est faisable le 5 février, pérennisons-le toute l'année. Non mais voilà. Sinon, moi, on peut penser qu'il y a une forme d'hypocrisie à ne pas vouloir mettre des moyens ou à mettre des moyens supplémentaires seulement quand il fait froid. Pourquoi? Parce que les élus, mais c'est la vérité. D'ailleurs, Madame Linguet l'a dit très, très franchement sur l'antenne.
Elle est la maire de Fleury-les-Aubrais.
Maire de Fleury-les-Aubrais. Je ne veux pas qu'il y ait un nouveau drame humain qui se produisent. Donc la mairie de Fleury-les-Aubrais a été très, très volontaire et très volontariste dans cet accueil. Donc voilà, donc un aveu, parce que ça ferait tâche quand même pour un élu qui est un mort en période de grand froid.
Jean-Noël Guillaume, donc c'est vous qui gérez ce fameux 115. C'est un peu le nerf de la guerre en période de grand froid. Donc effectivement, on en parlait juste avant de prendre l'antenne. Vous disiez le 115, il y a toujours quelqu'un qui répond aux appels. Après, la difficulté, c'est de proposer des solutions d'hébergement à toutes les personnes qui appellent.
Oui, et vous redire en quelques mots l'objectif de ce service d'accueil, d'orientation, qui répond au numéro 115, le numéro d'appel d'urgence. C'est une structure qui coordonne les forces de l'ensemble des acteurs associatifs du département du Loiret. C'est important de comprendre ça. Et aujourd'hui, ce sont plus de 1000 places sur notre département d'hébergement et de logement adapté qui sont pilotées par notre service. Vous parliez du comptage tout à l'heure. Effectivement, mon service est un très bon indicateur, mais il n'est pas suffisant.
Tout le monde n'appelle pas le 115.
Exactement, tout le monde n'appelle pas le 115. Et il y a des gens qui sont lassés de ne plus appeler ce 115 parce qu'ils savent que malheureusement, la réponse est négative. D'autre part, pour certaines autres personnes, c'est également la porte fermée de certaines structures d'hébergement parce que ces structures sont inadaptées. Je pense qu'aujourd'hui, il y a dans la rue des personnes qui ont des addictions, par exemple, qui trouvent difficilement une place sur les structures d'hébergement. Le collègue le disait tout à l'heure, des personnes avec des animaux, c'est assez compliqué. Alors on a quand même des expérimentations. Moi, ça fait 10 ans sur Montargis que j'ai ouvert le premier accueil avec animaux du département du Loiret. Ça fonctionne. Aujourd'hui, le couple animal-maître dort dans une chambre sans difficulté et sont certainement des choses à dupliquer sur l'Orléanais, hein, parce qu'on a des demandes.
Donc il faudrait plus de souplesse dans les structures d'accueil.
Il faut qu'on le réfléchisse. Je crois que tout dépend également de la forme de structure. Si on est sur une structure collective qui accueille des enfants, à la place de l'animal, on a le droit de s'interroger. Mais si on a bien pensé notre structure d'hébergement et qu'on a des chambres individuelles qui permettent de le faire, oui, il faut aller vers l'accueil des maîtres et des animaux,
à
bien
qui
sûr.
Appartiennent ces structures.
Il y a la hâte on peut le préciser quand même sur Orléans qui joue le jeu d'accueillir le maître et le chien. Mais par contre, il y a des places qui sont limitées.
Limitées, voilà. Ce sont les acteurs associatifs. J'espère ne pas en oublier, mais vous avez l'acteur majeur qui s'appelle Aïdafi, vous avez effectivement les collègues du Relais, les collègues de la Halte, les collègues de la Croix-Rouge française, Imanis bien entendu. Voilà, et tous ces acteurs qui sont présents sur les 4 principaux bassins d'emploi du Loiret travaillent toute l'année à héberger les personnes.
Est-ce qu'elles travaillent ensemble ?
Ah ben bien sûr. Et l'outil de coordination aujourd'hui, c'est l'USIAO. Alors, c'est nous, associatifs, qui recevons les appels, qui essayons, en fonction de la vulnérabilité, d'orienter utilement les personnes. Et en ça, on n'a rien inventé. On a copié ce que faisaient les pompiers et le SAMU avec leur salle de régulation. D'accord. Et l'intégralité du dispositif, ensuite, est pilotée par les services de l'État. C'est bien les services de l'État qui nous donnent les moyens de faire fonctionner ce dispositif.
Donc vous dispatchez les gens suivant ce qu'ils vous disent au téléphone, c'est bien ça?
Exactement.
Alors moi j'ai un chien, je dors dans la rue, vous savez où les envoyer?
Exactement, je suis une famille avec 3 enfants, je suis une personne handicapée, vous voyez on a des critères de vulnérabilité et en fonction de ce qu'on entend, et c'est chose difficile parce que vous imaginez bien que ce qu'on réceptionne au téléphone c'est chose compliquée, quelquefois pas qu'en français, il faut maîtriser plusieurs langues. Et en fonction de tout ça, voilà, il faut réussir à orienter les personnes.
Nathalie Azoumé Costenoble.
Moi, je voudrais revenir sur les places, parce que je pense que c'est vraiment un sujet important. Effectivement, vous disiez qu'on avait 52 personnes sans solution début février, zéro pendant le plan grand froid, mais pourquoi ne mobilise-t-on pas des places supplémentaires ? C'est vrai, mais on le fait. Mais on le fait, et c'est en ça aussi qu'il faut distinguer le travail dans l'urgence, commandé par les intempéries, et puis le travail sur un temps plus long que l'on a initié depuis maintenant plusieurs mois avec l'ensemble des partenaires. Donc effectivement, dans l'urgence, on a ouvert, et en étroit partenariat avec les collectivités territoriales, les associations, sous l'égide de l'État, 88 places. Sur ces 88 places, 25 places sont aujourd'hui pérennisées jusqu'à la fin du mois de mars. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas refermé une fois que les températures sont redevenues plus clémentes.
RCF Loiret à Orléans sur le 91.2.
Vous écoutez Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Maxentre. Nous faisons aujourd'hui un premier bilan du plan Grand Froid du Loiret avec nos 3 invités, Nathalie Azoumé Costenoble, secrétaire générale par intérim de la préfecture du Loiret, Jean-Noël Guillaume, directeur d'Imanis Loiret, et enfin Yves Baudard, l'un des fondateurs du collectif citoyen orléanais Les Maraudeurs du jeudi. Justement, Yves Baudard, vous vouliez rebondir.
Moi, je suis une parole qui est libre, hein, parce que déjà, je ne suis même pas une associatif. On est quand même une équipe de 6, on est travailleurs sociaux, il y a un cadre infirmier hospitalier, on a une infirmière qui maraude avec nous, deux éducateurs spécialisés, une personne qui est conseillère d'insertion, on est des gens sérieux. Hein, parce que voilà, on n'est pas seulement, il n'y a pas seulement le côté militant qui parle. Mais bon, nous on vient là, on va pas venir défendre ce qui se fait. Moi je viens de parler de ce qui se fait pas, de ce qui est insuffisant. Tout le monde travaille. J'ai maraudé 2 ans avec le 115, je ne vais pas cracher à la soupe. Je connais le travail, je connais les difficultés, les bénévolats, c'est tous les jours qui sont au charbon. Donc rendons leur hommage, il n'y a pas de problème. Effectivement, après, il faut une volonté politique. Et la volonté politique, moi, je voudrais qu'on éclate les logiques de territoire. J'en ai marre que la préfecture, que la ville d'Orléans va renvoyer sur la préfecture, que les villes de l'agglo ne jouent pas le jeu, puisqu'effectivement, il y a un attrait de la ville-centre, puisqu'il y a des dispositifs qui sont dans la ville-centre. Alors, c'est pas toujours Orléans qui doit supporter. Que le conseil départemental fuit ses responsabilités, parce qu'un jeune mineur isolé, le jour où il a 18 ans et un jour il va se retrouver à la rue. Après, sur le comptage, sur le recensement, moi je mets des réserves sur le recensement. Il y a des organismes officiels qui le font et qui vont faire avec éthique. Envoyer des personnes qui ne sont pas formées pour compter, moi ça me rappelle des périodes qui ne sont pas très glorieuses de notre histoire. Donc effectivement, moi je n'irai pas compter. Pour compter pourquoi? Est-ce qu'on va compter les migrants? Est-ce qu'on va les mettre en danger? Qui on compte? Qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres? Quels sont les objectifs?
C'est pour adapter les dispositifs.
Voilà, est-ce que c'est pour. Voilà, mais ça n'a pas été. J'ai lu encore hier ce qui s'est sur Paris. C'est pas très clair. Non, c'est pas, franchement, c'est
donc
pas clair.
Parce que c'est la mairie.
Donc sur Orléans, effectivement, on est sur un petit bassin, on connaît les personnes, ils sont repérés. Je crois que le comptage, il est à peu près, il y a peu qui échappe. Si on se met autour de la table, on aura des chiffres approximatifs et les situations.
Donc vous faites allusion à la nuit de la solidarité qui s'est tenue hier soir à Paris avec l'objectif là de recenser les SDF, les gens à la rue, sans les réveiller, sans les déranger, sans stigmatiser.
Mais après, on fait un comptage d'une personne qui est clandestin, qui est sans abri, clandestin. Qu'est-ce qu'on va faire On a une éthique, on est par rapport à ça, on n'est pas dans un positionnement pour faire du chiffrage et du comptage et que la personne demain risque peut-être d'être expulsée. Nous, on respecte ça. C'est un moment de trêve, la maraude. C'est un moment de trêve.
À Paris, c'est différent dans la mesure où on manque d'hébergement, semble-t-il, ce qui ne paraît pas être le cas dans le Loiret.
Alors, si, manque d'hébergement
aussi. À Paris, le discours, c'est de dire pourquoi ne pas utiliser les bureaux ou les logements libres et vides. Est-ce que c'est le cas dans le Loiret aussi? Est-ce qu'on a besoin de réquisitionner, Yves Bodard, ce genre de
logement? Déjà, il y a aussi l'accueil de jour. Déjà, l'accueil de jour. Alors, c'est-à-dire qu'on prend en charge des familles, des personnes.
Oui.
Le soir, après 21h, 22h, 23h, des fois très tard, parce qu'effectivement, le temps qu'il y ait une place qui se débloque et que le 115 puisse répondre, j'en suis témoin, donc ça, je peux le dire hein, quand même. Et le matin, bah, les familles, à 7 ou 8 heures le matin, on leur dit allez au roller l'année, parce qu'il y a la seule capacité d'accueil de jour et qui est insuffisant. Donc on n'a pas une vraie structure d'accueil de jour. Donc on met des familles à la rue. Des familles, hein, je le dis bien. D'ailleurs, j'ai même des familles de migrants qui ont été à la rue l'an dernier avec des enfants dans les bras. Je veux dire qu'on leur donne simplement une couverture de survie. On repart avec tout ça à se trimballer quand même dans nos têtes et on dort pas bien. Quoi.
Jean-Noël Guillaume pour Imanis.
Alors, pour Imanis, et puis j'espère pouvoir répondre également pour mes collègues associatifs, c'est l'observation que vous faites, bien entendu, on l'a faite également. Et c'est notamment pour ces motifs qu'aujourd'hui, notamment lorsqu'on ouvre une structure d'hébergement d'urgence, et a fortiori, c'est encore plus vrai pendant l'hiver, nous ouvrons ces structures à 17h, à la fermeture des écoles. Et toutes les structures que nous avons ouvertes durant cette période hivernale, nous les ouvrons à 17h. Effectivement, nous fermons le lendemain matin à 8h, parce que les enfants, il faut également les accompagner à l'école. Vous voyez, hein, le souci est de prendre en charge dans la globalité. Vous rappelez ensuite la problématique de l'accueil de jour. Est-ce que l'accueil de jour, ou les capacités de l'accueil de jour sur Orléans suffisent? Moi, je vous rejoins, monsieur, je pense qu'elles ne suffisent pas aujourd'hui, on peut se le dire. On a 4 accueils de jour sur le département du Loiret, un porté par les collègues du relais orléanais sur Orléans, 3 autres à Montargis-Pithiviers-Gien portés par mon association, Imanis. Orléans Métropole est une très grande ville aujourd'hui. Elle mériterait peut-être le renforcement de cette capacité ou la création d'un second accueil de jour. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise préconisation.
Nathalie Azoumé-Costenable.
Oui, en complément, moi je voudrais revenir sur plusieurs points. Vous parliez tout à l'heure de mobiliser des bureaux pour donner plus d'hébergement. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait à la fin du mois d'octobre. Et déjà l'hiver dernier, rue de la Manufacture, dans un bâtiment qui appartient à l'État, qui hébergeait des bureaux appartenant à la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, bâtiment qui n'est plus utilisé aujourd'hui et qui a été reconfiguré pour cet hébergement hivernal. Voilà, donc on essaye de faire feu de tout bois, d'utiliser les ressources disponibles pour accueillir ces personnes au mieux. Tout à l'heure, je disais qu'on était aussi sur un temps plus long. Et ce travail, donc, on l'a initié maintenant depuis plusieurs mois. Et au-delà de compter les personnes qui sont à la rue, c'est aussi tout un travail d'orientation qui est fait pour leur permettre d'aller vers le logement le plus adapté à leur situation. Et ce travail, nous avons commencé à le mener en parfaite entente avec les associations qui ont été reçues par Monsieur le Préfet Falcon. Et nous avançons. Alors c'est vrai que ça demande du temps, parce que derrière chaque dossier, il y a une situation humaine qu'il nous faut étudier. Mais on étudie ces dossiers au mieux, avec discernement, encore une fois, pour proposer la solution, l'orientation la plus adaptée à la situation.
Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont hébergées dans les hôtels, comme c'est le cas ?
Nous avons encore des places d'hôtels qui sont mobilisées pour accueillir ces personnes. Et notamment, dans ces places d'hôtels, ce sont les personnes qui sont en situation de plus grande vulnérabilité. Oui. Et contrairement aux hébergements de nuit, lorsque ces personnes sont accueillies à l'hôtel, elles le sont pour une durée entre 4 et 8 jours. À charge pour elle après de renouveler la demande.
Quid de l'accompagnement social de ces personnes qui est aussi indispensable ?
Alors, accompagnement social, mais qui doit être global, parce qu'il y a aussi accéder au logement, c'est une première étape, mais il y a l'accompagnement social et surtout l'accompagnement dans et vers l'emploi, qu'il ne faut pas du tout négliger. Et sur tous ces aspects, nous y travaillons également. Donc, encore une fois, c'est un travail au long cours qui est en train de se mettre en place et qui commence déjà à produire ses fruits. À l'échelle de la région Centre-Val-de-Loire, on a déjà capté, entre guillemets, capté des logements pour accueillir 195 personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Depuis le début du mois de janvier. Donc on est aujourd'hui.
Oui, on a quand même, faut pas oublier quand même, on a la promesse du président Macron qui l'a réitérée récemment. La promesse, il l'a tenue à Orléans. Eh bien, faisons d'Orléans le symbole de cette promesse tenue. Et donc, il y a des locaux à réquisitionner. Il y a la maison de retraite. Après, je ne sais pas les montages, à qui ça appartient. Moi, j'ai un regard extérieur. Comment on peut capter du logement ? La maison de retraite, les ombrages.
Les ombrages
la maison
à, de la source,
la chapelle Saint-Mémin qui va fermer. Travaillons sur du collaboratif. Des personnes qui pourraient être mises à l'abri dans ces structures-là. Une pause pérenne, 4 jours, 8 jours, ce n'est pas suffisant. Il faut se poser. La réquisition, l'installation de mobil-homes sur des terrains de camping. Parce que pour certaines personnes, il faut un habitat transitoire. Parce que l'habitat solide, ça peut faire peur. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie à laisser dormir des gens en bord de Loire et qu'on a deux campings, un à Saint-Jean-de-l'Arvel, j'ai cru directeur du cabinet de Saint-Jean-de-l'Arvel, et à la chapelle Saint-Mémin, où les personnes feraient 50 mètres et seraient mis à l'abri dans un camping avec des conditions matérielles sanitaires. On pourrait même imaginer un projet collaboratif qui participe à l'entretien, etc. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai une parole qui est... Je sais que vous êtes... Non, mais c'est compliqué parce que Humanis...
Mais concrètement, qu'est-ce qui empêche
ce genre de
solution ?
Humanis travaille avec les moyens qu'on donne. Avec les moyens qu'on donne. Bien sûr qu'il n'y a pas assez de moyens humains d'accompagnement social. Bien sûr qu'il n'y a pas de structure. Bien sûr. Mais faisons d'Humanis Orléans un symbole de la promesse tenue d'Emmanuel Macron. Moi, cette parole-là, je vais la faire vivre.
La question, c'est qu'est-ce qui empêche ce genre de solution d'être mise en œuvre dans le cadre de la loi ?
Jean-Noël Guillaume.
Oui, ben vous dire par exemple sur les réquisitions, moi on a beaucoup travaillé. Vous savez que l'association Humanis fait partie du réseau Fondation Abbé Pierre. C'est pas neutre. On reprend le bâton de pèlerin d'un grand homme qui s'est battu toute sa vie pour le logement des défavorisés. Et la réquisition, c'est une arme qui est à la disposition effectivement des préfets. Est-ce qu'elle est si simple à manier ? Moi, je suis très clair aujourd'hui. Non. Pour quel motif ? Parce que des bâtiments de bureaux ne sont pas des bâtiments d'habitation.
Non, mais la maison de retraite des ombrages, c'est pas.
Oui, mais pour
pas
des motifs, mais
c'est
non,
chauffé,
non.
Il y a de l'eau.
Alors, est-ce encore chauffé ? Moi, c'est la question que je pose. Deuxièmement,
très difficile à
nous allons
route,
non, mais nous allons accueillir des enfants sur une structure qui accueillait des personnes âgées. La question de la sécurité, les escaliers sont-ils protégés ? Sur les bâtiments de la DRAC, voyez-vous, on a ces bâtiments qu'on va utiliser 5 mois durant. Il a fallu installer des douches. À notre départ, on va devoir les démonter, vérifier qu'il y ait des sanitaires suffisants. Tout ça, c'est, vous voyez, c'est à prendre en compte pour qu'on accueille dignement les personnes. Hein.
Donc, ils ne sont pas mieux accueillis dignement dans la rue que dans ces maisons de retraite.
C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que lorsque l'opérateur en aura la charge...
Ça, je passe là aux gens.
Non, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus.
Non, mais je suis d'accord avec vous.
Quand même, parce que...
Bon.
Alors, ne parlez pas tous en même temps. Qui veut rebondir, Nathalie?
Oui, moi je voudrais dire que par rapport à ces logements vacants, nous travaillons sur ces logements vacants. Mais ça ne suffit pas si en amont, on n'aura pas identifié les personnes que l'on pourra orienter dans ces logements vacants. Parce que attention aussi à ne pas faire de la surabondance par rapport à ce qui existe déjà. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais dire. Le second, c'est que mercredi matin, j'étais en maraude aux côtés de la IDAFI. On est allé au contact des personnes qui...
À Orléans,
tout à fait. Des personnes qui habitent, une personne qui habite dans un squat, d'autres personnes qui sont effectivement dans des campements au bord de Loire. Nous travaillons sur ces situations, encore une fois, pour essayer de trouver la situation la plus adaptée à la situation de ces personnes. Mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, mais nous nous y engageons.
Moi, en termes de symbole, toujours... Bon, alors, je suis un peu un aiguillon, parce que effectivement, je suis pas associatif, je suis pas salarié, je suis pas dans... Voilà, donc effectivement, j'ai cette parole libre. C'est un aiguillon. C'est moi, je suis votre partenaire aussi. Parce qu'en étant aiguillonné, ça permet aussi de dire, tiens, il y a une parole un peu citoyenne, un peu militante qui est là. Moi, par exemple, je vous pose une question, à vous, autour de la table. Est-ce qu'il est acceptable qu'Orléans applique depuis 2003 des arrêtés anti-mendicité en termes de stigmatisation des populations. Sur les maraudes, on a même été parfois contrôlés. Aujourd'hui, il y a une bienveillante neutralité parce qu'avec Olivier Carré, il y a un dialogue qui a pu s'installer. Mais au début de nos premières maraudes, effectivement, on a été contrôlés. Donc des personnes qui sont contrôlées. Nous, la maraude, c'est un temps de trêve. Est-ce que j'avais demandé à la préfecture de se positionner à nos côtés, aux députés, aux élus, pour faire pression, pour dire on abroge cet arrêté anti-mendicité. Dans une journée, on a recueilli 1500 signatures. Ça vient stigmatiser. On ne peut pas être la ville où on fait la promesse qu'il n'y aurait plus personne dans la rue dans la voix du président de la République et dans un même temps, on applique un arrêté anti-mendicité et qui est appliqué. Les gens, ils sont verbalisés. Et tout à l'heure, quand vous avez dit effectivement qu'il y a des familles qui partent, on les accueille à 17h, là aujourd'hui, vous savez ce que je viens de recevoir comme message? Comment ils prennent le transport en commun? Parce que les mêmes, quand ils sortent des dispositifs d'urgence, ils prennent des prunes parce qu'ils prennent le transport en commun en fraude pour aller sur les dispositifs, y compris pour venir sur les maraudes. Aujourd'hui, nous, les personnes qui viennent de maraudes, on leur donne des tickets pour aller. Là, aujourd'hui, les sans-abri, il y a une action qui est menée par le STAPS, par les étudiants du STAPS, qui ont réquisitionné un gymnase pour faire une action avec des personnes du roller à l'année. Les personnes n'ont pas de titre de transport pour s'y rendre. C'est moi qui vais les dépanner avec notre collectif parce qu'on est des entreprises. Donc, c'est global. Il faut avoir une vision globale. On peut à la fois héberger, faire un accueil de jour et aussi prévoir la trêve aussi dans les contrôles, etc. Parce que les gens, ils ont peur quand ils se déplacent. C'est la réalité.
Alors, cette émission touche quasiment à sa fin. Il nous reste 2 minutes. On va faire rapidement un dernier tour de table pour que chacun d'entre vous aussi donne sa vision. Comment on fait pour faire que les gens sortent de la rue? Parce que ce n'est pas une fin en soi. Nathalie Azoumé-Costenoble.
Sortir de la rue, ça n'est pas quelque chose que l'État et la préfecture du Loiret fera en l'imposant aux personnes. Sauf, et je mesure bien mes propos, s'il y a trouble à l'ordre public ou menace pour l'intéressé ou pour son entourage. Sur sortir de la rue, on s'y emploie, on l'a fait, et quand je dis on, c'est vraiment un on collectif en lien avec les associations, les collectivités territoriales, pendant les temps de grand froid. On continue à travailler dans cette logique-là afin qu'on ait un nombre de personnes à la rue qui puisse diminuer et permettre toutes les orientations possibles en fonction des situations détectées.
Yves Baudard, en 30 secondes.
En 30 secondes, que les gens sortent de la rue autrement qu'entre quatre planches. Parce qu'effectivement, on appelle ça, il y a une période dans la vie d'une personne en précarité, c'est la période de liminarité. Il faut que cette période-là ça soit la moins longue possible. Parce que souvent, les personnes retrouvent une dignité, retrouvent une famille à titre posthume. Tous les ans, on organise hommage aux morts de la rue. 500 morts à peu près recensés. C'est recensé. D'ailleurs, il faudrait jouer le rôle du recensement sur les morts de la rue, comme on fait sur les morts de la route. Et on peut estimer à plus de 3 ou 4 000 personnes, peut-être, des personnes qui meurent à la rue. Donc effectivement, qui sortent de la rue de façon digne et accompagnée.
Jean-Noël Guillaume pour Humanis.
Oui, je note que du 5 février au 14 février, dans le département du Loiret, 100% des demandes d'hébergement auront trouvé une solution. Regardez la statistique nationale. Et je tiens à remercier du fond du cœur l'ensemble des collègues associatifs qui sont associés aux collectivités et à l'État pour réussir cet exploit. Et je termine en vous disant que l'hébergement d'urgence, c'est une chance, mais ce n'est pas une fin. Notre combat, c'est le logement durable, c'est le logement pour tous.
Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cet Agora. Merci Christian Bidot.
Merci Sophie.
Cette émission est bien sûr à retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur le site de Maxentre en tapant maxentre.fr. Bon appétit à tous et tout de suite l'info continue sur RCF avec l'antenne est à vous.